Christ et tienne.
Amen. On applaudit. Amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous aujourd'hui. Amen.
Amen.
Notre Dieu est merveilleux. Il nous a encore fait grâce ce matin de nous renouveler le souffle de vie. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Jésus est ressuscité. Amen.
Amen.
Dieu est merveilleux. Avant de commencer, nous allons écouter cette louange. Amen.
La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
Fêtons sa résurrection aujourd'hui. Jésus-Christ est ressuscité. Amen.
Amen.
Bien-aimés, nous allons commencer notre culte. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces temps, qu'il prenne le contrôle de nos cœurs, qu'aucun esprit ne vienne nous distraire, mais que nous soyons concentrés sur la parole de Dieu ce matin. Amen. Je n'oublie pas de saluer toutes les personnes qui sont connectées. Merci de votre présence, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Amen.
Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque, nous parlons de la résurrection de Jésus. Beaucoup sont dans des fêtes, ce qui n'est pas mauvais. D'autres sont limités la Pâque au chocolat, ce qui n'est pas mauvais. Mais bon, aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus. C'est vrai qu'on doit se réjouir parce que notre Sauveur est ressuscité. Amen.
Amen.
Donc, je vais commencer mon culte. Ce sera peut-être très long, mais c'est un enseignement. J'ai dû faire des recherches pour. Amen. J'aurais pu parler de la Pâque dans l'Ancien Testament avec Moïse et la mort et la résurrection de Jésus qu'est la Pâque chrétienne. Ce sera un live long. Amen. Car beaucoup de chrétiens et de personnes ne mesurent pas la portée spirituelle de cet événement dans la vie de tous les êtres humains. C'est pourquoi je suis obligée de repartir aux origines de l'humanité pour mieux édifier non seulement la communauté qui me suit, mais également toutes les personnes désireuses de découvrir le mystère qui se cache derrière cet événement. Amen.
Amen.
À l'époque de Moïse et à la Pâque chrétienne. Nous ferons cela en deux temps, mais aujourd'hui nous allons parler de la Pâque, alléluia, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Aujourd'hui nous verrons la Pâque à l'époque de Moïse. La Pâque à l'origine est l'antique fête agricole du printemps qui célébrait la première moisson et la fécondité des troupeaux. Cette fête a été choisie pour commémorer la libération des Hébreux esclaves depuis 400 ans. Cette libération s'est faite sous la conduite de Moïse et Aaron, son grand frère, et cela environ 1200 ans avant Jésus-Christ. C'est pourquoi, sur instruction formelle de Dieu, les Juifs célèbrent chaque année cet événement historique et spirituel appelé Pâque par des réjouissances et un repas symbolique en famille. Par contre, pour les chrétiens, la Pâque juive prend une autre signification dans les événements de la crucifixion de Jésus. Pendant que les Juifs préparent la fête de Pâques en famille comme d'habitude, Jésus fait comprendre à ses disciples qu'il va lui-même prendre la place de l'agneau et donnera sa vie pour le salut du monde. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Telle est la problématique. Pourquoi Mohammed, Bouddha, nos ancêtres ne s'expriment pas ainsi? La réponse est en rapport avec ta source de lumière, celle qui est censée éclairer ton chemin sur le plan spirituel. En tant que chrétien, notre source de lumière, c'est Jésus. Alléluia, c'est la Bible, Amen. Notre source de lumière. En effet, pour comprendre les propos de Jésus, nous allons remonter l'histoire de l'humanité selon la Bible qui est notre source de lumière. L'histoire de l'humanité commence au Jardin d'Éden, dans un monde parfait, que Dieu, esprit invisible et puissant, a créé et formé parfait, où l'on retrouve le soleil, la lune, les étoiles, pour nous éclairer, la nature et son écosystème complexe, les animaux terrestres, marins, les oiseaux de tout genre, et enfin l'homme et la femme. Dieu a créé tout parfait. Le péché n'avait pas encore fait son entrée, donc tout était parfait. Dans l'esprit de Dieu ou encore sa pensée, il crée un cadre parfait pour que le couple vive en harmonie dans une fusion, complicité et transparence totale. Ceci est révélé dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24, voici ce que dit la parole de Dieu. Amen, j'ai la parole de Dieu avec respect. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ceci qui forme leur complicité, leur fusion. Amen. Donc, la nécessité d'avoir un sauveur n'était pas dans le plan de Dieu puisque tout était parfait. Toute la création fonctionnait à merveille. C'est pourquoi Dieu a conclu en disant ceci dans Genèse 2, versets 1 à 3. Quelqu'un peut faire la lecture à Genèse 2, versets 1 à 3, s'il vous plaît. Merci. Amen.
Amen.
La prophétesse Sentinelle Myriam va faire la lecture dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 3.
Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors, merci. Ah, quoi? Non, c'est bon. Merci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.
Amen.
Amen.
Donc, Dieu avait béni ses enfants. Adam et Ève n'avaient pas besoin d'un sauveur. Tout était parfait, il n'y avait pas de péché. Et Dieu les avait tous bénis. Alors que tout fonctionne normalement, la femme, dans sa pensée, décide de changer cette ambiance paradisiaque. En désobéissant à un ordre formel que Dieu avait donné à Adam, l'administrateur de la terre. Genèse 2, versets 15 à 17.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Amen.
Amen.
Et c'est là où le péché est rentré à cause de la désobéissance. Ève n'a pas écouté l'ordre que Dieu avait donné à Adam. À partir de là, les choses vont changer, le péché est rentré. En allant contre la volonté de Dieu via son mari, elle découvrait son paradis où les fruits étaient beaux à voir et bons à consommer. Elle partagea cette découverte au mari qui adhéra tout de suite sans lui rappeler le commandement de Dieu. Il a agi ainsi parce qu'ils étaient fusionnels et transparents. Comme ils étaient fusionnels, ils ne pouvaient pas douter, ils ne pouvaient rien lui dire. Tout ce que la femme disait, il écoutait. Tout ce qu'il disait, la femme écoutait. Amen. Donc, nous allons le lire dans Genèse 3, versets 1 à 7.
Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea.
Amen.
Amen.
Donc, Ève a pris le fruit, elle donna à son mari et les deux ont mangé le fruit à cause du serpent qui a semé le doute dans sa tête. Amen.
Amen.
Donc elle se disait, est-ce que je dois, je ne dois pas, pourquoi? Mais elle cogitait dans sa tête alors qu'ils avaient reçu un commandement. Mais le serpent est venu lui dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Donc à partir de là, ce fut la mort spirituelle. puisque la communication en esprit qui était le lien dans le monde parfait a été coupée avec Dieu. Ils n'étaient pas morts physiquement, mais c'était la mort spirituelle parce qu'ils avaient désobéi. Le couple perdit automatiquement la puissance divine que Dieu leur avait donnée. Genèse 1, verset 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Jusqu'où? Merci, c'est bon. Amen. Donc, Dieu, à l'origine, avait donné la puissance à l'homme de dominer sur les animaux et non sur les hommes. En désobéissant à Dieu, créateur du ciel et de la terre, le couple a fait rentrer le péché et les démons qui ont été chassés du monde spirituel ou invisible. Après une guerre violente, ces démons vont maintenant se réveiller dans l'homme parce qu'ils ont désobéi. Donc, le démon de la désobéissance, de la colère, est descendu sur l'homme. Cela va, nous allons le lire dans Apocalypse 12, versets 7 à 9.
Je peux le lire.
Vas-y. Apocalypse 12, versets 7 à 9.
Ah, je lis la parole de Dieu avec respect. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
C'est jusqu'où là?
Je suis au verset 11.
Non, c'était jusqu'au verset 9. Mais là, c'est pas grave, lis le verset 12 maintenant.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez tous les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Amen. Donc, voici les conséquences de la désobéissance. Satan, il est content. Alléluia. Donc, comme le péché est rentré, nous sommes animés de la colère, de la haine, de la jalousie, ce qui n'était pas quand Adam et Ève n'avaient pas encore désobéi à Dieu. Quand je parlais de le serpent qui est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est dans sa pensée, c'est pas le serpent, l'animal, alléluia, c'est quand on cogite dans la tête le monologue et on se dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est le serpent, mais c'est pas le serpent, c'est notre pensée. Amen.
Amen.
Désormais, le couple fonctionnera avec leurs facultés naturelles, leurs cinq sens, leur intelligence et plus tard leurs connaissances acquises à l'école et dans les universités. Donc, parce qu'ils sont morts spirituellement, ils ne sont plus guidés par Dieu, ils sont guidés par leur sens. Alléluia. C'est ainsi que le couple et leurs descendants quitteront la lumière spirituelle de Genèse 2, verset 25.
Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte.
Amen. Donc, quand ils étaient dans l'obéissance, ils n'avaient pas encore désobéi à Dieu, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant qu'ils ont désobéi, ils ont écouté le serpent, ils ont mangé le fruit, alléluia, ils ont vu qu'ils étaient nus alors qu'au départ ce n'était pas ça. Voici les conséquences de la désobéissance. Quand on marche selon nos sens, notre intelligence, Dieu ne peut plus intervenir. Et il y a des conséquences très graves.
Amen.
Alléluia. Amen. Pour l'obscurité, donc, spirituelle de Genèse 2, 25, pour l'obscurité spirituelle et les ténèbres de Genèse 3, verset 22, mais je vais lire la version français courant. Puis il se dit, voilà que l'homme est devenu comme un dieu, parce qu'ils ont goûté, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour ce qui est de savoir ce qui est bon ou mauvais, il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. Donc, parce qu'ils ont désobéi, ils n'auront plus droit à l'arbre de la vie. Alléluia. Ils domineront maintenant leurs semblables et deviendront des dieux au pouvoir et à la puissance temporelle. C'est pourquoi Dieu les chassa du jardin d'Éden et mit les chérubins à l'entrée de l'arbre de la vie éternelle pour empêcher l'homme d'y pénétrer et de vivre. Donc, parce qu'ils ont désobéi, ils ont été chassés du jardin d'Éden et Dieu a mis les anges, les chérubins pour garder l'arbre de la vie éternelle. D'y pénétrer et de vivre éternellement avec un corps souillé par le péché et corruptible. Genèse 3, versets 23 à 24. Genèse 3.
Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Et ce fut la mort physique. Les chérubins sont des anges gardiens de l'arbre de la vie éternelle. Amen. Donc, Amen. La mort spirituelle et la mort physique conduiront les descendants d'Adam et Ève tout droit à la mort éternelle. La mort spirituelle, pourquoi? Il y a mort spirituelle quand on désobéit à Dieu. Et donc là, on est éloigné de Dieu spirituellement parlant, on est mort. Et après aussi, il y a la mort physique. Donc, ces deux morts conduiront les descendants d'Adam et Ève tout droit à la mort éternelle. Donc, à cause de la désobéissance, la progéniture d'Adam et Ève est perdue. Ils vivent dans l'obscurité et les ténèbres. Lorsqu'on est éloigné de Dieu, lorsqu'on désobéit à Dieu, c'est l'obscurité totale, ce sont les ténèbres. Il n'y a point de lumière. Il y a peut-être la lumière, l'ampoule, mais la lumière de Jésus ne nous guide plus. Amen.
Amen.
Comment faire pour sauver l'homme de la mort éternelle et de le ramener au chemin qui mène à l'arbre de la vie éternelle? Donc, c'est ça la problématique. C'est à ce niveau que Dieu met en place le plan B, l'arrivée de Jésus-Christ, pour réparer cette injustice, comme révélé par l'apôtre Paul dans Romains 5, versets 18 à 19.
Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes.
Amen. Donc, je vais relire. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie étant à tout, s'étend à tout le monde. À cause d'Adam, alléluia.
Amen.
Parce que Adam a obéi, ce péché nous atteint aussi. Il y a quelqu'un qui est venu nous justifier. C'est qui?
C'est Jésus.
Jésus.
Alléluia.
Jésus.
Donc,
Jésus.
Le premier Adam a péché. Le deuxième Adam est venu pour nous sauver. Amen.
Amen.
Le premier Adam a échoué à sa mission. Jésus, le second Adam, vient maintenant pour sauver l'homme. Il vient le faire sortir de l'obscurité spirituelle à la lumière. De quelle manière Jésus va le faire? Lorsque Dieu a constaté que le couple a coupé la communication avec lui, il leur a laissé gérer leur destin eux-mêmes. Ils ont été guidés par leurs facultés naturelles, leur intelligence, leurs cinq sens. Ces derniers ont fait des enfants et par l'effet du multiplicateur, les enfants sont nés sous le contrôle des démons qui sont descendus avec une grande colère vu précédemment. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 12, versets 7 à 9 et 12. Alléluia.
Amen.
Les enfants sont nés possédés par les démons. Les conséquences. Ok. Ce fut l'échec total de la première humanité qui entraînera le monde dans le chaos. Dieu a dû intervenir pour faire disparaître cette race d'impies dans le déluge, car les gens étaient méchants, malveillants, violents, etc. Seuls Noé et sa famille furent épargnés. Genèse 6, versets 5 à 12.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande.
Genèse 6, versets 5 à 12. Oui.
Ah, d'accord. Était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre.
Amen.
Amen.
C'est la première alliance que Dieu a scellée avec l'homme, l'alliance de la justice et de l'intégrité. Noé était un homme juste et intègre. Après le déluge, l'homme charnel, ayant montré son incapacité à se gérer lui-même, Dieu décide de renouer le contact avec le genre humain pour préparer son offensive contre le mal et les démons ou anges déchus que nous avons lu dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, 12.
La parole de Dieu.
Amen.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu pour vous animer d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps.
Amen. Pour cela, il choisit un homme insignifiant, Abraham, et un peuple insignifiant, les Hébreux nomades du désert. Voici ce qu'il dit à Abraham dans une vision, Genèse 12, versets 1 à 7.
L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, son fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel.
On s'arrête là. Amen. De quelle postérité s'agit-elle? C'est l'apôtre Paul qui nous éclaire sur la postérité en question dans Galates chapitre 3 au verset 16. Galates chapitre 3 au verset 16.
Je lis la parole de Dieu. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ.
Amen. Amen. Donc, de quelle postérité s'agit-elle? C'est l'apôtre Paul qui l'éclaire sur la postérité en question. Donc, l'apôtre Paul a dit, c'est pas les postérités, mais c'est la postérité. Et c'est qui cette postérité? C'est Jésus. La postérité, c'est Christ. Donc, la mission divine d'Abraham est d'engendrer la lignée de Jésus-Christ. Mais par qui? Puisqu'il n'a pas d'enfant avec sa femme. Sarah, que Dieu a rendue stérile. Une énigme, un mystère que seul l'Éternel, l'Esprit Tout-Puissant, est capable de faire. C'est après 40 ans de stérilité que Sarah, âgée de 90 ans, et Abraham, âgé de 100 ans, ont eu le fils de la promesse, Isaac.
Amen.
Genèse 21, versets 1 à 5.
L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils.
Genèse 21, 1 à 5. Ok.
Amen.
Isaac, à son tour, a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. avec sa femme Rebecca après 20 ans de stérilité. Il faut savoir que Rebecca était stérile. Il a fallu l'intervention de son mari qui a prié devant l'Éternel pour qu'elle puisse enfanter. Donc, Genèse 25, versets 23 à 26.
Genèse 25.
Versets 23 à 26.
Je lis la parole. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront ou sortiront de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent.
Amen. Amen. Donc, qu'il s'agisse ici du couple Abraham et Sarah ou Isaac et Rebecca, les enfants sont nés dans la foi et selon la volonté et le temps de Dieu. C'est lui qui a contrôlé à chaque fois les événements depuis le monde invisible ou spirituel. Amen.
Amen.
Les stérilités de Sarah et de Rebecca étaient d'une providence divine parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Amen. À 90 ans, techniquement parlant, il est impossible d'enfanter. Mais Dieu est venu nous montrer sa toute puissance. Amen.
Ouais. Amen.
Jacob, divinement choisi comme le futur fondateur d'Israël, est celui par qui Jésus naîtra. Il aura 12 fils qui constitueront les 12 tribus d'Israël avec 4 femmes. Léa et Rachel, les deux sœurs, et leurs deux servantes, Zipla et Bila. Avant de mourir, par voie testamentaire, Jacob jettera son dévolu sur Juda, par qui les rois et le Messie Jésus naîtront. Quatrième fils avec Léa, dont le nom signifie « Louer l'Éternel ».
Amen.
Genèse 49, versets 8 à 10.
Amen. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent.
Amen. Donc le Shiloh, c'est Christ. Amen.
Amen.
C'est pourquoi il est dit, Jésus est le lion de la tribu de Judas. Amen.
Amen. Okay.
Jacob a prophétisé 1800 ans avant Jésus-Christ de tout ce qui allait se passer. Donc ici, il s'agit de l'histoire de Joseph. Après avoir rêvé, fait des rêves prémonitoires où 11 âmes se prosternèrent devant lui et ensuite 11 étoiles plus le soleil et la lune, il fut vendu par ses frères à l'âge de 18 ans. C'est à 30 ans qu'il est devenu le gouverneur d'Égypte où l'accomplissement de ses rêves s'est réalisé.
Amen.
Il régna pendant longtemps et a permis à toute sa famille de s'installer à Goshen, une ville paradisiaque, une région où coule le lait et le miel. Amen.
Amen.
Donc, après la mort de Joseph, en tant que gouverneur de toute l'Égypte, va s'accomplir ce que Dieu avait révélé à Abraham dans une vision. Genèse 15, versets 13 à 14.
Merci. 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham.
Genèse 15, versets 13 à 14.
C'est ça,
c'est
Genèse 15.
Oui.
13 à 14. Voilà. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Amen.
Amen.
En effet, les Hébreux seront esclaves pendant 400 ans en Égypte. C'est après 4 siècles que Dieu, depuis le monde invisible, formate et prépare le libérateur Moïse. Il naîtra dans la tribu de Lévi, troisième fils de Jacob avec Léa, Exode 2, versets 1 à 10.
Exode 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va !» lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux.
Amen.
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 Son nom, donné par la fille de Pharaon, préfigure déjà un destin exceptionnel. Comme il a été sauvé des eaux, il sera chargé de sauver les Hébreux de la captivité. Merveilleux,
Amen.
N'est-ce pas?
Ouais.
Cette libération se fera le jour de Pâques. C'est une Pâques physique. Alléluia.
Amen.
Parce que le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. Donc, c'est une Pâques physique. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Après un combat entre Pharaon et ses dieux égyptiens contre Moïse, et le Dieu du ciel et de la terre, documenté à travers les 10 plaies d'Égypte, donc on ne va pas le lire, c'est dans les 10 plaies d'Égypte, se trouve dans Exode à partir du chapitre 7 au chapitre 12.
Amen.
Donc, à la 10e plaie, Dieu demande à Moïse et à Aaron de préparer le repas de Pâques et de protéger les maisons des Hébreux en aspergeant du sang de l'agneau aux 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison, ensuite de manger de la chair rôtie au feu avec du pain sans levain et des herbes amères. Tout était
Amen.
Précis, alléluia. Tout était précis, il ne fallait pas qu'il fasse le contraire de ce que Dieu avait demandé.
Amen.
Car dans la nuit, Dieu enverra l'ange de la mort exterminer tous les premiers-nés. Seuls ceux qui seront épargnés cette nuit. C'est ceux qui auront le signe visible aux portes. Exode 12, versets 1 à 13.
Exode 12,
versets 1 à 13.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Amen.
Amen.
Dieu avait bien donné des recommandations. Pourquoi? Retenez bien un agneau sans défaut. Alléluia.
Amen.
Le Christ est cet agneau sans défaut. Amen.
Amen.
Donc, c'est le repas de Pâques. Le repas de Pâques, Dieu avait donné des recommandations. Dixième plaie, mort des premiers-nés. Pharaon qui vivait dans un aveuglement spirituel, puisqu'il était un dieu sur terre, il pensait qu'il avait le droit de vie ou de mort sur les Hébreux. Pour lui, aucune puissance visible ou invisible ne pouvait changer cela. Alléluia.
Amen.
Mais une grosse erreur de sa part, puisque Dieu va accomplir ce qu'il a révélé à Moïse et Aaron. La mort des premiers-nés de tous les Égyptiens, y compris l'office et les premiers-nés des animaux. Exode 12, verset 29.
Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux.
Amen. Amen. Même le fils du Pharaon n'a pas été... a été, comment on appelle ça?
N'a pas été épargné.
Même le fils du Pharaon. Pharaon qui pensait qu'il était fort, qu'il n'y avait personne au-dessus de lui, mais Dieu lui a montré qu'il était Dieu. Amen.
Amen.
Face à cette puissance extraordinaire, Pharaon se décida à libérer les Hébreux la même nuit. Qui peut lutter avec Dieu?
Personne.
Exode 12, versets 30 à 31.
Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit.
Il n'avait pas le choix que d'être libéré. C'est à ce moment que Moïse, Aaron et les Hébreux sortirent d'Égypte. Exode 12, versets 32 à 39.
Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens.
Ils ne sont pas sortis les mains vides. Hein?
Ils ont même pris plus que ça.
Donc, ceci est la Pâque physique. Ils sont sortis la nuit. Ils sont sortis la nuit. Ceci est la Pâque physique qui signifie épargner. Donc, ils ont été épargnés de la mort. Ils étaient environ 1 200 000. Après cet événement, voici ce que Dieu révèle à Moïse. Exode 13, versets 3 à 10.
Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. » Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel.
Alléluia.
On mangera des pains sans levain. Pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année.
Amen.
Amen.
Amen. Résumons cette première Pâque. Pâque veut dire passage de l'état d'esclave à un état de liberté. Les symboles sont le repas de Pâque qui s'est fait 7 jours avant le jour J, un agneau saint sans défaut, le sang de l'agneau. Tous ces symboles doivent être présents lors de la Pâque chrétienne où Jésus viendra affranchir l'humanité de l'esclavage, du péché et des conséquences à la liberté en lui donnant la possibilité d'accéder maintenant à la vie éternelle. Puisque par son sacrifice, les chérubins de Genèse 2, 23 que nous avons lu, ouvriront le portail et déposeront leurs flèches afin de faire entrer les fidèles en Christ. Romains 6, versets 5 à 10. Verset 5 à 10.
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort.
Amen.
Une fois pour toutes. Amen.
Amen. Ah. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, est ressuscité. La terre ne pouvait pas le contenir.
Ah non.
Alléluia.
Amen.
Aujourd'hui, peut-être que tu es passé par des difficultés. On s'est moqué de toi, on t'a humilié. Les gens pensaient que tu allais rester dans cet état. Mais lorsque tu as crié à Dieu, parce que tu as fait confiance en Dieu, pas en l'homme, il a manifesté sa gloire.
Alléluia!
Donc, spirituellement parlant, tous ceux qui étaient morts en toi, aujourd'hui ressuscitent.
Amen.
Tes pleurs se transforment maintenant en rire, en joie. Alléluia.
Amen.
Malade, tu es guéri, même si tu as des petits bobos, mais Dieu te montre que ce n'est pas parce que tu es dans cet état que maman n'est pas sur toi, ce n'est pas parce que tu es dans cet état que je ne peux pas t'utiliser. Au contraire. Amen. L'âme est guérie. Alléluia.
Amen.
Donc, aujourd'hui, toi qui pleurais, tu disais, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Aujourd'hui, Dieu te donne ton mariage.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Il y a beaucoup de choses qui sont spirituellement mortes en toi. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Tu passes devant les gens, tu es la risée. Mais il y a toujours un troisième jour.
Ouais.
Il y a toujours un troisième jour. La terre pensait qu'elle pouvait engloutir Jésus. Beaucoup étaient contents. Beaucoup dansaient comme beaucoup aujourd'hui sont contents de voir ton malheur. Ils se réjouissent de ton malheur. Mais ils ne savent pas qu'il y a un troisième jour. Il y a toujours un jour où Dieu se révèle, où Dieu te manifeste sa gloire. Et donc aujourd'hui, parce que tous ceux qui étaient en toi, qui étaient morts spirituellement, mais aujourd'hui, tu es ressuscité.
Amen.
Les gens ne voient peut-être pas ça. Tu étais une personne peut-être colérique parce que les anges déchus étaient avec toi. La colère, c'était pour toi. La haine, la jalousie. Mais quand tu demandes à Jésus de te changer, de te transformer, il le fait. Et le péché aussi s'en va. Tu ne peux pas le rencontrer et plus rester la même personne.
Amen.
Alléluia.
Amen.
C'est la Pâque physique qui concerne les Hébreux. C'est une ombre de la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne concerne les Hébreux et l'humanité entière. Donc, bien-aimés, souvenez-vous de cette vérité. Le dimanche de Pâques nous enseigne que l'espoir peut renaître, que la foi peut renaître et que Dieu a toujours le dernier mot sur ce qui semblait terminé.
Amen.
Jésus est mort, Jésus a été enterré, Jésus est ressuscité.
Amen.
Et grâce à cela, il y a encore de l'espoir pour vous. Même après la souffrance, Dieu a toujours le pouvoir de donner la vie.
Amen.
Alléluia.
Amen.
C'est un enseignement long.
Non.
Ça, c'est la première partie.
C'est pas long.
Et la deuxième partie, ce ne sera pas aujourd'hui. Ce sera mercredi.
Amen.
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 Vous savez, lorsqu'on fait 1h15, ça va, mais à partir de 1h45, ça commence à fatiguer. Et donc, pour ne pas avoir les visages fatigués, nous allons nous arrêter par là. Et nous savons une chose, c'est que Jésus est ressuscité aujourd'hui.
Je peux dire juste une petite chose?
Bien sûr.
Pourquoi sans levain? Pourquoi à la Pâque, c'est sans levain? Parce que le levain représente le péché. C'est pour ça qu'on ne peut pas célébrer la Pâque si on ne s'est pas débarrassé du péché.
Amen. Alléluia. Donc le levain, c'est le péché. Comme a dit la prophétesse Sentinelle Myriam, ce qui est vrai, on ne peut pas célébrer la Pâque sans... Avec le péché, sans être repenti.
Ouais.
Et vous voyez, on revient toujours à la repentance.
Amen.
Amen. Dieu est merveilleux.
Amen.
Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message?
Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Jésus.
Amen.
C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je l'aime.
Ici, nous avons la prophétesse sentinelle Myriam qui est folle de Jésus-Christ de Nazareth.
Ah, oui.
Elle ne peut pas s'empêcher de crier, de parler de son Jésus parce que il a fait des choses extraordinaires. Il fait et il fera encore des choses extraordinaires dans sa vie comme dans nos vies. Si nous lui faisons totalement confiance, si nos regards sont uniquement fixés sur lui. Alléluia.
Oui.
Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Notre Seigneur est ressuscité.
Amen.
Nous sommes contents. Peut-être que tu avais un visage flétri à cause des soucis de la vie. Mais aujourd'hui, ton visage reprend son éclat. Amen. Dieu est merveilleux.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. On ne peut pas terminer ce culte sans demander aux personnes d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Ah
oui. Voyez, Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité aujourd'hui. Bien-aimé, après ce message, tu ne peux pas rester et dire « Ce Dieu, je ne l'accepterai jamais. » Sans lui, tu ne peux rien faire. Alors ce matin, je t'invite à l'accepter dans ta vie. Je ne te dis pas qu'en l'acceptant, tout sera sans problème. C'est faux. C'est là où les problèmes vont commencer. C'est là où tu seras éprouvé. Tu vas te poser la question de savoir, est-ce que j'ai bien fait? J'ai bien fait d'accepter Jésus dans ma vie. Oui, tu as bien fait. Pourquoi? Parce que dans les problèmes, dans tes problèmes, dans toutes les situations difficiles par lesquelles tu vas passer, il sera avec toi. Ce ne sera pas facile, mais il sera avec toi. Par contre, si tu ne l'as pas dans ta vie, eh bien, tu vas trimer. Voilà pourquoi j'insiste que tu l'acceptes dans ta vie. Si tu veux, mais moi je te dis, j'insiste. Mais là, si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, c'est la mort spirituelle. Amen.
Amen.
Donc, Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus, ton Fils unique que tu as donné au monde et qui est mort à la croix pour moi. Je te demande de pardonner mes péchés et de me purifier par le sang de Jésus. Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen.
Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Amen, amen, amen. Celui qui est, alléluia,
amen.
La solution à tous nos problèmes. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta présence, pour tes bontés, tes bienfaits. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, nous venons devant ta présence pour te dire merci. Merci parce que tu nous aimes comme personne. Merci parce qu'Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, sans toi, nous ne pouvons rien faire. À qui d'autre irons-nous, comme pouvait dire l'apôtre Pierre, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous nous accrochons à toi parce que tu es la source d'eau vive. Reçois, Père éternel tout-puissant, notre adoration. Reçois notre louange ce matin comme un parfum de bonne odeur. Nous reconnaissons une chose, que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de parler de toi. Nous allons crier haut et fort que tu es le ressuscité. Nous prions un Dieu qui est mort, mais qui est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, accepte Jésus dans ta vie et fais de Jésus ta priorité. Avec lui, tu iras loin. Avec lui, tu feras des choses extraordinaires. Vous savez que sans Jésus, on est amené à faire des choses mauvaises. Alors que quand on a Jésus, la parole de Dieu te corrige, la parole de Dieu te freine sur toutes tes bêtises. Si tu n'as pas Jésus, tu ne liras pas la Bible, tu ne liras pas la parole de Dieu. Tu tu seras tenté à faire du mal. Tu n'auras d'égard pour personne. Tu seras imbu de ta personne. Et c'est ça, l'aveuglement spirituel. Mais avec Jésus, on est éclairé. C'est la lumière qui ne s'éteint jamais, comme une ampoule qui peut s'éteindre parce qu'elle est grillée, qui peut s'éteindre parce qu'il y a une coupure de courant, alors qu'avec Jésus, tu seras toujours éclairé. Alléluia.
Amen.
Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre culte. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse votre semaine et restez toujours connectés à la source d'eau vive. C'était votre œuvre sur les servantes, le prophète Jérémie, du ministère des enfants perdus. Est-ce qu'on peut encore acclamer?
Jésus nous aime.
Et nous l'aimons. Et nous l'aimons aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.